With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Nous sommes avec Maxime Dupuy en direct de Budapest. Les Bleus ont atterri ce soir même ici dans la capitale hongroise. Et ben nous avec Maxime, on s'est mis dans leur valise. Maxime est tout petit, il prend moins de place, donc c'est beaucoup plus pratique pour lui. Et nous voilà donc en Hongrie sur une place de Budapest.
Ouais, voilà. On ne connaît pas encore.
Alors on est arrivé il y a 10 minutes.
On est arrivé 10 minutes. Alors déjà première chose sur le Budapest et sur l'avion. L'avion était tout petit,
c'est
donc
vrai.
Il valait mieux pas être trop gros.
C'est vrai.
Et il y a eu quelques inquiétudes de confrères dont on ne citera pas le nom. Je dirais juste qu'ils bossent dans un grand journal national.
Exactement, et ils ont eu une petite suée. Donc nous voilà à Budapest. Pour ceux qui regardent la vidéo, bah, vous verrez qu'il y a un joli décor derrière nous. Et pour ceux qui écoutent le podcast, eh ben, ce n'est pas grave parce que ce qui compte, c'est ce que raconte Maxime. Voilà, voilà. Hein, on va dire c'est comme
ça. Et qu'est-ce que je vais raconter ? Alors déjà, on vous prévient, vous le savez, vous en avez pris l'habitude, à la fin de cette émission, il y aura évidemment la minute MPP avec un resserrement au niveau du classement général. Vous voyez, c'est un match à deux qui est exceptionnel, je ne vous en dis pas plus.
Ouais, là, c'est du Dijon-Nîmes.
C'est du Dijon-Nîmes. Mais ce n'est pas du Dijon qui est à 10 points de Nîmes, tu vois.
Non, c'est vrai, là, c'est vrai, exactement.
Donc, on va parler de quoi, évidemment. On va parler des Bleus et on va revenir évidemment sur ce France-Allemagne. Et on a eu envie de parler d'Antoine Griezmann parce qu'Antoine Griezmann, c'était finalement le plus discret des trois de devant. Dans un rôle qui lui sied bien, mais qui rappelle un peu ses débuts de tournoi un peu timides. Alors, on va se poser la question de savoir si Griezmann a réussi son match hier ou si bah, il est juste encore en train de monter en puissance, parce qu'on ne doute pas une seconde qu'il monte en puissance.
Non, on n'a aucun doute. Ensuite, on parlera de, de ce qui s'est passé avec Benjamin Pavard. Aujourd'hui, il y a eu un entraînement au centre d'entraînement du Bayern Munich. On est allé les voir. Benjamin Pavard était là. Il s'est décrassé comme tout le monde. Mais on se posera la question, est-ce que l'équipe de France a pris la bonne décision en ne sortant pas du terrain Benjamin Pavard qui s'est quand même pris un sacré coup de genou. Et bah Maxime, on terminera avec les Allemands qui l'ont un peu mauvaise, qui nous la jouent un peu Belgique.
Eh oui, c'est marrant. Et justement, Joshua Kimmich n'a pas tellement aimé l'appréciation de cette équipe de France. Il ne s'est pas dérangé pour le dire. Et la question qu'il y a derrière ça, et sous en latence, c'est moi que j'ai aussi ressenti sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que cette équipe de France, en dehors des frontières, elle est peut-être en train un peu d'agacer tout le monde parce que justement, c'est une machine à déjouer, c'est une machine à tout bloquer. Et évidemment, c'est assez frustrant pour les adversaires. Donc, on a l'impression qu'elle est en train de… Autant elle est aimée dans le pays, autant dehors des frontières, c'est un peu plus compliqué. On reviendra là-dessus dans la troisième partie de l'émission. On va démarrer évidemment sur Antoine Griezmann. Martin, Antoine Griezmann, tu lui as mis quelle note hier ?
Je ne me souviens plus. Si, je crois que je lui ai mis 5, me semble-t-il. 5 ou 5,5, je ne sais plus. 5 ou 5,5, soit l'un, soit l'autre. En tout cas, c'était le joueur, c'est vrai, qui me semble qu'il a eu la moins bonne note avec Hugo Lloris. Mais bon, Hugo Lloris, c'est parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Je ne dirais pas qu'il a fait un mauvais match, Antoine Griezmann. Maxime, je dirais qu'il a fait un match à son image un petit peu moins, et notamment dans l'influence dans le jeu de l'équipe de France. On ne l'a pas beaucoup vu à la construction. Didier Deschamps parlait en conférence de presse des progrès qu'il y avait à faire dans l'utilisation du ballon de l'équipe de France, dans les ressorties de balles. Il ne visait pas nommément Antoine Griezmann, mais si l'équipe de France a connu autant de déchets dans la sortie de balle, c'est en grande partie dû à la performance, on va dire, timide du joueur du FC Barcelone. Il n'a pas été le chef d'orchestre qu'il est d'habitude en équipe de France. Il a laissé ce statut et la baguette à Paul Pogba. Mais Maxime, ce n'est pas la première fois qu'on voit un Antoine Griezmann un petit peu discret lors des tournois. Là, c'est même limite son meilleur match de début de tournoi. Ça ne signifie en rien qu'il va passer à côté de la compétition.
Non. On ne parlera pas d'inquiétude de Griezmann, loin de là.
Pas du tout.
2016, premier match contre la Roumanie, il n'est pas bon. Deuxième match, il est remplaçant face à l'Albanie. 2018, ça démarque un cas contre l'Australie. Après, il y a le Pérou. Et souvenez-vous qu'il sortait à chaque fois remplacé par Nabil Fekir pour les 10-15 dernières minutes. Alors Antoine Griezmann,
et qu'à un moment je me souviens qu'il y a eu un débat, est-ce qu'il ne faut pas mettre Fekir à la place de Griezmann,
voilà,
avant l'Argentine,
ça n'a pas duré longtemps,
ça n'a pas duré longtemps.
il y a quand même eu le débat. En fait, ce qu'il faut dire d'Antoine Griezmann, déjà, reprendre les choses dans l'ordre. Hier, il est dans une position en attaque, il est censé être dans le losange, donc derrière les deux attaquants. Et finalement, les Français n'ont jamais vraiment été dans cette position de possession de balle puisqu'ils avaient décidé de faire le dos rond, d'attendre les Allemands. Donc, qu'est-ce qu'a fait Griezmann? Il s'est globalement retrouvé sur le côté droit du terrain pour défendre à trois, évidemment, avec Mbappé à gauche, Benzema dans l'axe et Lille à droite. Alors ça, il le fait très bien. Alors, sur cette partie-là du match, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'évidemment…
C'est ce qui sauve complètement sa prestation.
C'est son match, c'est le faire, c'est l'image de la Coupe du Monde 2018 et c'est un joueur parfait pour ça. Maintenant, comme tu le dis, dans les sorties de ballon, dans les remontées de balle, on l'a moins vu. Je pense aussi que c'est lié au fait que Pogba évoluait quasiment dans la même zone et comme tu l'as dit, le chef d'orchestre, c'était Pogba. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour autant sur la prestation de Griezmann? Je ne pense pas parce que Griezmann, on le sait, et anecdotiquement, aujourd'hui, on le voyait à l'entraînement, Griezmann, c'est un coéquipier fantastique.
Incroyable.
Qui sait s'est passé. Alors, c'est des détails, mais on l'a vu apporter les bouteilles d'eau aux remplaçants. On l'a vu aller dans les buts. Il est vraiment…
Il ne semblait pas rongé par le doute. Hein.
Et c'est Antoine Griezmann, c'est le coéquipier. Pour ça, je pense que c'est un… J'allais dire, le ratio talent du joueur, intelligence de jeu et mise à disponibilité de l'effectif et du groupe, c'est parfait, Griezmann, là-dessus. Donc, je pense simplement qu'il était à disponibilité totale de l'équipe de France, qu'il a fait le match qu'il aimait. Je ne suis même pas sûr que lui soit couché en disant « tu n'as pas été très bon forcément ». Non, il s'est dans sa plénitude de sa fonction, il a fait ce qu'il a à faire, évidemment. Et moi, je pense qu'on verra déjà mieux contre les Hongrois parce qu'a priori, c'est un match où les Bleus auront un peu plus de ballon et un peu plus d'initiative.
C'est un match qui ressemblera plus à France-Bulgarie où il a été quand même assez exceptionnel, le moyen un peu fort parce que l'opposition n'était pas terrible. Il n'y a aucune inquiétude à se faire pour Antoine Griezmann. Il faut se souvenir des matchs de préparation. C'est une mise en route. C'est effectivement un match qui ressemble un peu à France-Belgique. Et dans mon souvenir, France-Belgique, on ne l'avait pas beaucoup vu non plus dans la construction. Donc, c'est finalement le scénario du match qui a complètement déteint sur sa prestation à lui. Et lui, comme il est au diapason du collectif, comme ce n'est pas quelqu'un qui va jouer pour lui, eh ben, il va se mettre au niveau du collectif. Et si la France fait le dos rond, Griezmann va faire le dos rond. Et tant que ça gagne, c'est tout ce qui compte pour lui.
Ouais, ça va très bien. Et on le disait hier, c'est une équipe de France qui est tellement forte individuellement qu'elle peut se permettre d'avoir… Il y a toujours quelqu'un pour sauver la mise de l'autre, etc. Hier, c'était Pogba qui était formidable face à l'Allemagne. Et bien, Griezmann, il s'est mis au diapason de dire « je vais faire le job et assurer défensivement, faire mon job ». Encore une fois, je pense que sur ce match-là, c'était vraiment le Griezmann dont cette équipe avait besoin, tout simplement. Il a rempli son job à merveille. Et encore une fois, je pense que samedi, face à la Hongrie, déjà, on aura… Le Griezmann un peu plus offensif, un peu plus à la baguette.
Je t'annonce, Maxime, qu'il y a des supporters français qui arrivent. Oui. Non, et ça va être pour notre franchement, c'est des Italiens ?
C'est des Italiens.
Ah oui, j'ai confondu le vert avec le bleu du drapeau italien.
L'Italie s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en battant la Suisse, il me semble. Donc c'est pour ça.
Mais c'est la première fois qu'on voit une manifestation de joie dans une des. Ouais. Que ce soit à Munich ou à Budapest. Et là, vous entendez les chants.
Voilà. Ouais, parce que... I don't want to disturb you. Ok.
Voilà, donc nos amis italiens qui flingue la. Great guys. Et viva Italia. Hein. C'est comme ça qu'on dit viva Italia, Maxime, ouais, je suis pas sûr. Ouais, j'ai confondu l'espagnol, l'italien, mais j'ai fait allemand première langue. Voilà, donc nos amis italiens qui nous ont rendu visite. Hein, j'ai envie de dire, c'est les joies du direct, Maxime. Et on va aborder le deuxième sujet et Benjamin Pavard, qui a terminé le match face à l'Allemagne, malgré le gros coup de genou qu'il a pris en pleine face, malgré le vrai choc, hein, puisqu'il est resté quelques minutes quand même au sol. On va se poser cette question. Est-ce que l'équipe de France a pris la bonne décision? Est-ce qu'elle a pris la juste décision en continuant à faire confiance à Benjamin Pavard sur cette fin de match? Ce qu'on va dire d'abord, c'est qu'on a vu aujourd'hui Benjamin Pavard à l'entraînement de l'équipe de France faire un petit décrassage en compagnie d'autres titulaires qui semblaient tout à fait aptes, qui étaient plutôt bien. Et Raphaël Varane aussi a donné des nouvelles rassurantes.
Oui, Raphaël Varane a parlé justement parce que Raphaël Varane, en plus, joue de son côté Benjamin Pavard. Il a expliqué ce qui s'est passé hier. En gros, pour ceux qui ne l'ont pas vu, s'il y en a encore qui ne l'ont pas vu, Benjamin Pavard a pris une Harald Schumacher, on va dire sans malice, mais il en a pris une belle. Il était KO. Raphaël Varane a raconté qu'il est tout de suite allé le voir, que le staff, évidemment, est arrivé, le staff médical, et qu'il a ressenti aussi qu'il n'était pas au top et qu'il saignait du nez. Et donc, il avait pris un énorme choc. Et il l'a regardé, il a expliqué qu'il est resté à ses côtés et qu'il l'a surveillé, on va dire, sur la reprise du match. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut laisser un joueur sur le terrain quand il se passe ce genre d'incident? La FIFPro, aujourd'hui, s'en est émue en disant, en gros, le protocole commotion, il en est où? Et c'est vrai que dans le football, il ne faut pas se mentir,
On est en retard par rapport au rugby.
On est en retard. Et moi, je veux dire, alors, je n'ai aucun doute sur le travail de l'équipe de France et du staff médical, parce que, évidemment, déjà, je ne suis pas médecin et ce sont des gens très sérieux qui ont fait leur preuve, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'étonne, et ce n'est pas seulement l'équipe de France, je m'étonne qu'il n'y ait pas quelqu'un de l'UEFA qui soit là pour aussi jauger de ça. Parce qu'un joueur, pas forcément, on le sait, il vient de prendre un carton. Alors, il y a des protocoles, ils voient, ils arrivent à voir sûrement, regardez le joueur, comment il est. Mais ce serait bien qu'il y ait quelqu'un de neutre qui puisse dire, lui, il est apte, lui, il n'est pas apte à continuer. Souviens-toi de l'image de Matuidi en demi-finale de la Coupe du Monde qui avait fait beaucoup rire. Il était complètement dans le vague. Cette image qu'on avait vue, notamment à la télé en gros plan, bah, ce n'est pas très drôle au fond parce que le joueur, à ce moment-là, on ne sait pas comment il va. Et c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué et on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard sur ces protocoles-là. Parce qu'en plus, de toute façon, c'est quelque chose, bah, ce n'est pas comme une jambe cassée, ça ne se voit pas. C'est à l'intérieur et même pour la distance et savoir s'il peut sortir du protocole, s'il va bien, il faut du temps. Donc, c'est quand même un problème très compliqué à aborder.
Ce que nous a dit le staff de l'équipe de France, c'est qu'il avait passé une bonne nuit, c'est qu'il se sentait bien. Donc, voilà, ils ont tenu à rassurer. Il y a une charte hein, qui a été éditée pour l'Euro, pour justement ce protocole commotion que je vais vous lire. Et vous allez voir qu'il y a un flou et il y a une interprétation possible. Et c'est pour ça qu'il n'est pas sorti hier, tout simplement. Donc, cette charte nous dit si un joueur d'une équipe est soupçonné d'avoir une commotion cérébrale, il sera immédiatement sorti du terrain, que ce soit à l'entraînement ou en match. Soupçonné, voilà. Donc, soupçonné, il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est très compliqué. Et donc, l'équipe de France et le médecin de l'équipe de France a estimé que Benjamin Pavard ne souffrait pas de commotion. Il saignait du nez, mais il n'a pas perdu connaissance. Donc voilà, c'est sur ces, on va dire, sur ces éléments-là que se sont basés le staff de l'équipe de France. Et c'est pour ça que Benjamin Pavard est resté sur le terrain. Est-ce que c'était la bonne décision ou non voilà, on vous a donné en tout cas tous les éléments qu'on a en notre possession.
On va dire que oui, encore une fois, on fait confiance au staff médical, mais c'est vrai que tu l'as dit, ce flou-là, bah, il n'est pas rempli par, par l'UEFA. C'est-à-dire que je pense qu'il devrait y avoir un service médical qui est aussi là, dans ces conditions-là, pour checker, pour donner son go ou non, tout simplement. Parce qu'on pourrait des fois avoir des gens qui disent bah, « non, il faut le laisser sur le terrain » ou le joueur qui dit bah, « on fonce, on continue ». Donc, ce n'est pas évident à gérer. Et comme on l'a dit, par rapport au sport américain notamment, qui pour le coup, alors le sport américain, soit l'NBA ou le football américain, maintenant, on n'a plus du tout cette façon de faire. Et c'est dès qu'il y a un mini doute, on coupe, on sort le joueur du terrain. Et voilà, là, il y a des supporters qui viennent. Vous avez sûrement entendu, si vous nous voyez, vous savez qu'ils sont passés derrière nous. Sinon, vous les entendez. Quelqu'un, a priori, c'était un Hongrois. Si
Hongrie, à mon avis, ça veut dire… Hongrie, je ne vais pas m'avancer, mais je crois que ça veut dire Hongrie, ouais, Max. On passe au dernier sujet.
On passe au dernier sujet.
On a voulu réagir sur les déclarations des Allemands après la défaite face à la France. Les déclarations notamment de Joshua Kimmich. Kimmich.
Ah, bah, c'est Kimmich. Il a passé 3 jours en Allemagne. Je peux vous dire que le mec, il
m'était… Ah, c'est Joshua Kimmich. Voilà. Donc, Joshua Kimmich qui a déclaré après la rencontre, je dirais que nous n'avons pas été la plus mauvaise équipe. Nous avons dominé le match et nous prenons un but très malheureux. Des deux côtés, il y a eu relativement peu d'occasions. Nous aurions mérité un but. Nous n'étions pas la plus mauvaise équipe. Voilà ce qu'a dit Joshua Kimmich. Ouais. Alors, Maxime, ça dit quelque chose quand même de cette équipe. Ça nous rappelle des souvenirs. Alors, en moins, on va dire, offensifs que les Belges quand ils ont perdu face à la France à la demi-finale à la Coupe du Monde. Mais on ressent cette même frustration, ce même fond un peu aigre des vaincus de l'équipe de France quand il y a un scénario tel qu'il s'est présenté hier.
Oui, parce que nous n'étions pas la plus mauvaise des deux équipes. Ça ne veut pas dire qu'il avait la meilleure. S'il avait avancé, que… c'est un joueur très intelligent en plus, Kimmich, donc il n'y a pas de problème.
C'est oui, mais après, on peut se dire qu'après une défaite comme ça, bon, il y a des choses qui remontent et qui…
Oui, voilà. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que nous n'étions pas la plus mauvaise. Il y a deux doigts à dire qu'ils avaient la meilleure équipe et là, quand même, je pense qu'il va un peu loin. Oui, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose de la frustration. C'est-à-dire qu'inspire cette équipe de France.
Exactement.
Et on peut se mettre à la place des Allemands. Vous vous retrouvez avec le ballon. Et c'est une discussion que j'ai eue plusieurs fois sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur un papier que j'ai écrit en disant que c'est, l'équipe de France est passée maître dans l'art de faire déjouer l'adversaire. On m'a dit faire déjouer, vous exagérez. Les Allemands ont eu le ballon 60% du temps. Les Français ont tiré qu'une fois, enfin cadré. Et c'est un but contre son camp. Oui, mais est-ce que dans ce match-là, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, avez eu l'impression que l'équipe de France était mise en danger? Ben non, franchement, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on a
cette impression… Oui, difficile. Une grosse occasion.
Et on compare avec la Belgique 2018, au moins les Belges ont des occasions. Et si ça fait un partout, si ça fait 2-1, peut-être qu'à la fin, on dit bah oui, les Français ont été trop sur leur but. C'est une faute, sauf qu'ils maîtrisaient absolument. Et hier, moi, ce que je vois, donc mardi soir, c'est une équipe qui est sûr de sa force, mais dans des proportions complètement dingues.
Alors, est-ce qu'elle est mal aimée, cette équipe de France? Est-ce qu'elle commence à être mal aimée en Europe?
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de poindre en Europe avec ses adversaires, de dire que c'est une équipe qui casse le jeu, qui devra en faire plus, et qui va commencer à frustrer beaucoup de monde, et qui va commencer même à agacer, parce que, en effet, quand vous allez jouer contre cette équipe-là, vous attendez à quoi? Les Hongrois, je pense qu'ils ne s'attendent pas exactement à la même chose, parce que les Français vont jouer un peu plus. Il y a un écart, un rapport de force qui n'est pas le même. Mais les Portugais, par exemple, ou après, à partir des demi-finales, qui disent, on va jouer contre une équipe qui est chiante à jouer, qui est un peu minimaliste. C'est un peu le reproche que les Français font à cette équipe pendant les matchs de qualif, dire, elle n'en fait pas assez. Ouais, mais elle n'en fait pas assez, en vrai, elle en fait beaucoup. Et je le répète, c'est une masterclass de Didier Deschamps et de son équipe. Mais c'est vrai qu'on commence à sentir poindre quelque chose qui agace les adversaires parce qu'ils se disent, on bute contre eux, on a l'impression qu'ils n'en font pas, ils n'en font pas assez, qu'ils pourront en faire plus. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour les Allemands, qu'ils n'en ont pas fait plus d'ailleurs.
Ah oui, tout à fait. Non, mais ce qu'il faut juste rajouter quand même, c'est que l'équipe de France a eu deux buts refusés par le VAR quelques centimètres.
Pénalty,
un poteau.
Faut pas déconner, oui. Voilà.
Alors, un pénalty, je ne sais pas vraiment s'il y a pénalty, mais en tout cas, il y a une situation litigieuse. C'est qu'en tout cas, toutes les actions étaient plutôt quand même du côté de la France. Et bon, il y a eu cette frappe de Gnabry non cadrée qui était un vrai frisson pour Hugo Lloris. Mais hormis ça, c'est vrai que la France a dominé son sujet. Je te rejoins quand tu dis que c'est une équipe qui va commencer à enquiquiner l'Europe, c'est une équipe qui va commencer à agacer l'Europe, cette équipe de France. C'était déjà le cas en 2018. On se souvient de toutes les réactions qu'il y a eu après la victoire des Bleus. On disait que ce n'était pas forcément un joli champion. Alors là, il y a peut-être un argument quand même pour Didier Deschamps, et notamment au niveau du public français, c'est que la présence de Karim Benzema va atténuer les critiques, paradoxalement, alors que c'est la même équipe de France. Mais on ne pourra pas reprocher à Didier Deschamps de ne pas avoir pris toutes les forces de son équipe pour aller gagner cet euro et pour proposer le meilleur jeu possible. Le fait aussi qu'il n'y ait pas Matuidi sur le côté gauche, mais qu'on ait quelque chose de plus naturel, je dirais, au niveau de la composition d'équipe. Mais vous enlevez Matuidi, vous enlevez Giroud, vous mettez Rabiot et vous mettez Benzema. Vous retrouvez à peu près la même équipe de France parce que de toute façon, l'ADN, elle ne change pas. Ce n'est pas deux joueurs qui sont dépositaires d'une ADN.
On s'est posé la question de cet ADN, c'est-à-dire que vous sortez Giroud, vous sortez Matuidi, qui sont des joueurs plus de devoirs que Rabiot, l'élégance et évidemment le talent de Benzema. Vous pouvez vous dire que l'ADN va changer parce que ces joueurs-là ne vont peut-être pas se mettre au diapason. Or, les deux, et c'est, d'ailleurs, c'est assez symbolique, ce sont les deux anciens bannis qui étaient mis de côté par Didier Deschamps, l'un pendant 5 ans et demi, l'autre pendant presque 2 ans, oui, exactement, qui sont venus et se sont mis complètement dans ce groupe. C'est dire la force du groupe.
Rabiot, j'ai rarement vu un match. Là, il a été discipliné, il a été autoritaire, et il s'est complètement fondu dans le moule.
Et puis Didier Deschamps, si vous lui demandez 50 fois, il vous le redira à chaque fois, qu'est-ce qui compte? C'est d'être efficace dans les deux surfaces de vérité. La surface de réparation en défense, la surface de réparation en attaque. Et l'équipe de France, c'est exactement ce qu'elle a fait face à l'Allemagne. Parce qu'après, on peut très bien, on revient sur Kimmich qui dit oui, ils n'ont pas fait assez, etc. Mais dans l'absolu, si on prend les choses juste de loin, c'est quand même l'Allemagne. C'est pas le FC Pimpin.
Le fameux FC Pimpin.
C'est aussi à eux de faire le jeu. C'est aussi à eux d'ouvrir le verrou. Les Français, dans l'absolu, ils sont à l'extérieur hier. Donc, en gros, ils font le match qu'ils devaient faire. Ils gagnent 1-0. Alors, oui, c'est un autogol, c'est un but contre son corps de Mels. Ok, très bien. Enfin, bon, l'action, il n'y a quand même à peu près rien à dire sur l'action. Et puis, Gnabry, il n'a qu'à mettre sa reprise, il n'a qu'à moins la piquer. Donc, franchement, je trouve que c'est un peu culotté toujours de revenir à ça. Surtout que, par exemple, Joachim Löw n'a pas eu cette réaction. Joachim Löw, il a été prêt à dire. Il a dit que son équipe n'avait pas démérité, mais que les Bleus avaient fait ce qu'ils avaient à faire. Donc, voilà, moi, je pense que c'est plus ça. L'Allemagne devrait plutôt se servir de ce match-là pour construire plutôt que de se dire on n'était pas la moins mauvaise, etc. Parce que l'équipe de France était quand même largement meilleure sur ce match. On ne peut pas dire le contraire dans la maîtrise.
Maxime, on va passer à la partie que tu n'aimes pas.
Ouais.
À la partie que tu détestes.
Alors,
Maxime. Bon, déjà, on va faire un petit bilan. MPP, donc les pronos. Si vous nous suivez, vous commencez à avoir l'habitude de cette petite pastille de fin d'émission. Alors, ça ne s'est pas très bien passé aujourd'hui. Un peu mieux pour toi que pour moi, parce que moi, c'est 3 mauvais résultats. Donc, je reste à 111 et Maxime à 112.
Voilà.
Donc, il est devenu le roi du monde pour un point. Là, il s'est mis à me chambrer, à courir dans Budapest. T'es une buse, pour un point.
C'est grâce à l'Italie, parce que j'avais donné l'Italie 1-0, c'est 2-0, je crois que c'est ça. On va pas vous mentir, on n'a pas vu le match.
Je crois qu'il y a eu 3-0 même, Maxime, me semble-t-il.
Voilà,
me semble-t-il.
Pas de regret alors. Donc l'Italie a gagné, ce qui m'a permis de marquer quelques points et de passer devant Martin, ce qui est vraiment l'essentiel, parce que je ne rêve plus vraiment à la victoire finale.
Ah bah c'est terminé là. Ah c'est terminé. Hein.
Je n'y crois plus, surtout que j'ai grillé mon bonus sur la Finlande. Voilà. J'y crois très fort parce qu'on était, alors pour tout vous raconter, on était à l'entraînement des Bleus au moment où il y a le match de la Finlande et on entend dans les tribunes un confrère qui dit but de la Finlande 1-0. Je me suis levé, j'ai fait le tour, j'ai couru le long de la tribune et puis j'ai appris que le but avait été apparemment refusé. Donc je me suis rassis bien gentiment. J'ai pleuré quelques minutes et puis ben, j'ai fait avec.
On passe au résultat donc de ce.
Les pronos de ce jeudi. Ouais.
On ne sait plus quel jour on est. Donc, on passe au pronos de ce jeudi, Maxime. On commence par un petit Ukraine-Macédoine. Je pense, Maxime, qu'il est temps de prendre des risques si on veut se refaire.
2-0 pour l'Ukraine.
Maxime, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques.
Non, mais moi, je vous le maintiens maintenant.
Donc, moi, je dis 0-0. Voilà, 0-0.
Pour demain, je prends l'arbre.
Danemark-Belgique.
Danemark-Belgique, 3-1 pour la Belgique.
Ou un petit 2-0 pour la Belgique. Et Pays-Bas-Autriche. Là, il y a des grosses cotes. Il y a des grosses cotes, Maxime.
Pays-Bas.
On est obligé vraiment de faire un prono ou on peut mettre deux autres. Allez, vas-y, petite victoire des Pays-Bas, mais s'il y a match nul, vous repenserez à ce moment-là. S'il y a match nul, vous repenserez à ce moment-là.
On arrête tout de suite. Non, mais oui. Et je vais te faire. Bon, alors la Macédoine, mais si la Macédoine était pas mal.
Ok, victoire des Pays-Bas.
Combien ?
Victoire des Pays-Bas.
Non,
1-0. Ouais. Victoire des Pays-Bas.
Non, parce que là, c'est lui, c'est le roi. Le mec, il donne des pronos, il change ses trucs après. Parce qu'en fait, il essaie de vous mettre à l'envers.
Ouais, enfin, c'est surtout moi qui me mets à l'envers tout seul, là, depuis le début de la compétition. 111 points, 112 points. On n'est pas loin d'être les canards boiteux de notre ligue. Si vous voulez la rejoindre, il n'est pas trop tard. Heureusement. Je sais pas.
Tu peux le voir en.
Ouais, je peux le voir, mais je peux pas le voir. Non. Je peux pas le voir. On se donne rendez-vous demain.
On se donne rendez-vous demain. Sachez qu'il y aura une conférence de presse de l'équipe de France avec Lucas Hernandez à la mi-journée. Et on enregistrera notre podcast, cette fois, nous, en journée, donc vers 17h. Donc, si vous allez sur votre appli préférée de podcast, vous aurez nos bobines, au moins nos voix, vers les 18h environ.
Et si vous êtes à Budapest, faites-nous signe. Vous pourrez participer à l'émission.
Faites-nous signe. D'ailleurs, ça pourrait être drôle si vous êtes là, parce qu'on pourrait se retrouver quelque part et même vous faire parler, pourquoi pas.
Exactement. Voilà. On se donne rendez-vous demain, du coup.
Ouais.
Et puis, bonne soirée à tous. Et rendez-vous demain pour un nouveau numéro UFC Stream Team.
Salut.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.